J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Okapi, la fréquence de la paix, qui vous accorde la parole. Les conditions de travail, le respect du code du travail, ainsi que le renforcement des capacités des inspecteurs du travail préoccupent au plus haut point l'autorité de l'emploi de la République démocratique du Congo. Lors de sa dernière tournée dans l'est du pays, le ministre de l'Emploi a dénoncé notamment les conditions de travail des Congolais dans les entreprises étrangères. Une préoccupation qui a aussi fait l'objet du débat, parmi tant d'autres, lors du dernier Conseil national du travail organisé du 20 au 22 novembre dernier. Selon vous, que faut-il faire pour assainir le secteur de l'emploi en République démocratique du Congo? Vous pouvez participer à cet échange et partager et partage donc en nous rejoignant au 081 890 63 15 ou encore au 081 890 43 39. Notre standard est ouvert pour vous permettre de réagir en direct et vous avez également la possibilité de nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou, Héritier Sindiagala et Pierrot Elameji réalisent cette émission et J.R. Lungembo vous la présente sous la supervision de Nicole. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
La République démocratique du Congo s'est placée dans le contexte de tous les pays membres de l'Organisation internationale du travail, OIT, ceci en ratifiant les conventions internationales en cette matière, à savoir les conventions numéro 102, 112 et 121 relatives respectivement à la norme minimum de la sécurité sociale, à l'égalité des traitements en matière de la sécurité sociale ainsi qu'aux prestations en cas d'accident du travail et des maladies professionnelles. Et c'est depuis plus d'une dizaine d'années que le gouvernement congolais a décidé de promouvoir une politique sociale qui concourt à la promotion de la solidarité entre toutes les catégories de la population. Nous avons ces débats avec notre invité Modeste Bahati Lukwebo, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale. Bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Voilà, Monsieur le Ministre, d'entrée des jeux, les assises de la 30e session ordinaire du Conseil National du Travail ont été organisées du 20 au 23 dernier. Et quelles ont été les motivations premières de l'organisation de cette session?
D'abord, la motivation, c'est que il faut doter le pays d'un corps de sécurité sociale.
Comme vous le savez. Voilà, Excellence, on a des petits problèmes là avec notre communication. Vous êtes à un endroit où la communication n'est pas vraiment fluide, ou carrément vous éteignez votre poste récepteur pour nous suivre avec le téléphone. Hein. C'est plus pratique, où vous vous éloignez réellement de votre poste récepteur.
Non, je n'ai même pas mon poste récepteur. C'est peut-être un problème de jour. J'étais en train de dire que...
Voilà, c'est mieux qu'on vous relance sur une autre ligne, pour que nous ayons une communication très fluide, question de permettre aux auditeurs de vous suivre d'une manière impeccable. Ben voilà, donc je disais que les conditions du travail, le respect du code du travail, ainsi que le renforcement des capacités des inspecteurs du travail préoccupent au plus haut point l'autorité de l'emploi de la République démocratique du Congo. Lors de sa dernière tournée dans l'est du pays, le ministre de l'Emploi a dénoncé notamment les conditions du travail des Congolais dans les entreprises étrangères. Une préoccupation qui a aussi fait l'objet du débat parmi tant d'autres lors du dernier Conseil national du travail organisé du 20 au 22 novembre dernier. Alors la question du débat aujourd'hui, selon vous, que faut-il faire pour assainir le secteur de l'emploi en République démocratique du Congo? Vous connaissez nos moyens de contact, le 081 890 63 15 ou encore le 081 890 43 à 39. Notre standard donc est ouvert pour vous permettre de réagir en direct et vous avez également donc la possibilité de nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Donc je disais tantôt, la République démocratique du Congo s'est placée dans les contextes de tous les membres de l'Organisation internationale du travail, ceci en ratifiant les conventions internationales en cette matière, et c'est depuis plus d'une dizaine d'années que le gouvernement congolais a décidé de promouvoir une politique sociale qui concourt à la promotion de la solidarité entre toutes les catégories de la population. Donc le débat est lancé. Théodore, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour Théodore.
Bonjour, Gérard.
Voilà, Théodore, selon vous, que faut-il faire pour assainir les secteurs de l'emploi?
Bon, avant de passer au code du travail, pour assainir le secteur en matière du travail, il faut d'abord que l'État congolais crée beaucoup d'emplois tout en luttant contre la crise économique qui connaît notre pays depuis des décennies. Comme rappelle, il y a eu une crise accentuée donc avec le pillage de 1991 et 1993, où selon des recherches, nous avons trouvé qu'il y a eu 934 entreprises qui auraient été détruites et 91,515 emplois supprimés. Et aussi, quand nous ajoutons les deux guerres de 1996 et celle de 1998, qui a fait comme conséquence le rétrécissement du marché de l'emploi dans le secteur formel, d'où nécessité de se faire un emploi, une carrière dans le secteur informel pour survivre. Je m'en vais maintenant au code. L'article 47 du code du travail demande à l'employeur de soumettre tous les contrats écrits au visa de l'Office national de l'emploi. C'est la chose qui n'existe pas surtout dans les entreprises des expatriés. Il y a l'article 140. L'employeur est tenu d'accorder un congé annuel aux travailleurs. C'est aussi une chose rare dans le milieu des travailleurs. Il y a l'article 119. Ici, l'employeur doit faire viser l'horaire du travail. Et ces horaires-là ne sont pas visés. Jusque-là, les gens travaillent, ils viennent là-bas de 7h à 17h. Il y a des entreprises comme ça. L'article 38. L'attitude du travail des travailleurs. Chaque travailleur doit donner un certificat d'aptitude physique à son travailleur. C'est ce qui ne se fait pas. Surtout chez nous ici en Bujima, c'est très difficile avec les petits Indiens et les Chinois qui sont ici. Et pour les salaires, pour terminer, ça ne doit pas être minime. Hein, vous savez, l'obligation de réajuster, cela est demandé à tout le monde, à tout expatrié, tout opérateur économique. Il doit réajuster les salaires en vertu du décret 080/04/31/2002 que je n'ai pas avec moi ici. Alors, à ce moment-là, pour terminer avec les inspecteurs ne peuvent rien faire parce qu'en voyant seulement leurs conditions salariales, c'est très très difficile. Ils ont aussi des salaires minimes. Ils sont tous corrompus parce qu'il n'y a pas de suivi dans tous ces secteurs.
Merci beaucoup, Théodore, d'avoir apporté cette contribution. Nous avons notre invité qui est en ligne. Monsieur le ministre, vous êtes à nouveau en ligne. Vous parlez tout à l'heure des premières motivations. Si vous pouvez peut-être y revenir, question pour nous des plantations des décors avant de réaccorder la parole aux auditeurs.
Ah, d'accord, je vous remercie et je remercie les auditeurs. Je suis en train de dire que depuis que le pays a accédé à l'indépendance, il n'a jamais été doté d'un code de sécurité sociale. Et il était donc impérieux que nous puissions avoir un code de sécurité qui englobe tous les régimes, pas seulement le régime général, c'est-à-dire celui qui régit ceux qui sont soumis au code du travail, mais en englobant pratiquement et les secteurs publics, et les indépendants, et les vulnérables, et donc toutes les couches de la population. Il n'est pas normal que l'État puisse s'occuper uniquement de la sécurité de ceux qui travaillent. Au cours du Conseil national du travail, en sa 30e session, nous avons tenu à examiner tous ces aspects et les mettre dans un seul code en regroupant tous les régimes, dont le régime du code du travail, les régimes spéciaux qui régissent les agents et fonctionnaires de l'État, ceux de la police et de l'armée, ceux de l'enseignement supérieur et universitaire, les indépendants, ceux qui travaillent dans le domaine agricole, ainsi de suite, et tenir compte des vulnérables, comme je l'ai dit. Donc, c'était ça le premier mérite de ce travail.
Voilà,
et deuxièmement, au cours de la même session, nous avons tenu à réviser certaines dispositions du code du travail. Et tout à l'heure, je prenais à mi-chemin le correspondant de Mbujimayi, qui était effectivement en train d'évoquer certaines dispositions du code du travail. Nous voudrions rassurer tout le monde que nous avons tenu compte de ces aspects, y compris l'horaire de travail. Nous avons rétabli l'horaire sur 6 jours de travail au lieu de 5, parce qu'en réalité, il faut que les gens travaillent, y compris le samedi, parce que les gens ont besoin de services. Et nous sommes allés plus loin en disant que pour ce qui est justement du secteur informel, parce que ça a été évoqué lorsqu'il a parlé des Indo-Pakistanais et autres qui évoluent en marge de la situation du travail, nous avons pensé que les inspecteurs du travail doivent effectivement faire le travail que nous attendons d'eux. Et c'est pour cette raison que l'inspection générale du travail, qui deviendra l'inspection générale du travail et de la prévoyance sociale, aura le statut, et l'a déjà reçu d'ailleurs depuis janvier 2012, d'un établissement public. Et donc, les inspecteurs auront une rémunération différente de celle d'aujourd'hui, donc différente de celle de la fonction publique, pour qu'ils soient motivés et qu'ils soient à même d'accomplir leurs tâches après avoir prêté serment.
Voilà, monsieur le ministre, nous avons quelques auditeurs qui sont en ligne et qui ont eu quand même un intérêt par rapport à ce sujet. Nous avons Marcel qui est à Kisangani et Congo qui est à Mbujimayi également. Mais tout en rappelant à nos auditeurs, ils peuvent également nous rejoindre parce qu'il y a plusieurs questions qui ont été formulées par rapport à ce Conseil national du travail où il a été question de réfléchir sur la sécurité sociale. Composez les 081 890 6315.
Parole aux auditeurs.
Marcel, vous êtes à Kisangani. Bonjour Marcel. Marcel, vous êtes avec nous? Voilà, on prend Congo qui est en Mbujimayi. Bonjour Congo.
Oui, monsieur Congo, Mbujimayi.
Oui, Congo, vous êtes en Mbujimayi. Vous avez suivi tout à l'heure Théodore qui a évoqué plusieurs dispositions du code du travail qui ne sont pas respectées par certains employeurs. Et aujourd'hui, vous avez quel point de vue par rapport à cette question?
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Alors moi, j'ai essayé de fouiller dans l'histoire pour trouver que souvent les Congolais oublient les chefs de l'État. Vous avez promis l'augmentation du SMIG. C'est pourquoi je vais demander à monsieur le ministre, où sommes-nous à l'heure actuelle avec le SMIG?
Voilà, merci Congo, parce qu'il s'agit là d'une question directe. On va poser la même question au ministre Modeste
Bazilukaboui.
Oui, allez-y.
En fait, en ce qui concerne le SMIG, ce point était à l'ordre du jour du Conseil national du travail. Mais nous avons remarqué que les recommandations qui ont été formulées par les sessions précédentes concernant le SMIG n'avaient pas été appliquées ou observées. Et nous avons donc décidé de réactiver la commission spéciale qui est chargée d'évaluer et de veiller sur l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc c'est l'un des points qui nous a préoccupés. Et pour être beaucoup plus précis, il a dit que le chef de l'État avait promis d'augmenter le SMIG. Je comprends. Quand tu parles du chef de l'État, il s'agit du gouvernement. Et quand nous parlons du gouvernement, le gouvernement ne peut régir que les rémunérations publiques, c'est-à-dire les gens qui sont payés par le trésor public. Mais au niveau de mon ministère, nous devons régenter effectivement le SMIG pour l'ensemble de toutes les catégories professionnelles. Et donc, c'est un travail qui va se faire avec la participation des représentants des travailleurs, mais également des employeurs.
Voilà, monsieur le ministre, je vous avais posé tout à l'heure une question sur la collaboration de l'intersyndicale, qui a été d'ailleurs associée à l'organisation du Conseil national du travail. Pourtant, cette structure n'a toujours pas été en bonne relation, donc avec des bons rapports avec certains employeurs, qui n'ont d'ailleurs, comme l'a dit un des auditeurs, aucun respect de la législation congolaise et ne respecte pas certaines dispositions du Code du travail.
Oui, il faut avouer que les relations ne doivent pas être bonnes. Elles ne peuvent qu'être étendues parce qu'il s'agit ici de pouvoir. Chaque camp cherche à protéger son pouvoir. Les employeurs cherchent à préserver leurs avantages. Les travailleurs cherchent à défendre leurs droits. Et le gouvernement est là comme arbitre. C'est juste milieu pour mettre tous les bancs sur le même.
Voilà, on va.
à une solution négociée et qui puisse satisfaire toutes les parties. Il est vrai qu'il y a pléthore dans l'informel. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que l'ordre des inspecteurs doit justement dénicher tous ces employeurs qui évoluent en marge de la loi. Parce que comme vous le savez, à partir du moment où les gens, disons les employeurs, certains, ne sont pas affiliés à des organisations formelles comme la FEC, COPEMECO, FENAPES et autres, ANEP, eh bien, il est difficile de les saisir. Il n'y a que le pouvoir public qui avait un contrôle sérieux, et là nous comptons effectivement sur le patriotisme, la compétence et la moralité, parce qu'on l'a dit ici, la corruption a été évoquée, il faut la combattre, pour qu'on puisse rapidement déceler tout cela qui évolue en marge de la société. Il n'est quand même pas impossible qu'on sache qu'il existe une entreprise qui est installée quelque part et qui n'est pas en ordre. Il suffit de passer, d'exiger les documents de travail, de voir si les contrats de travail existent, de voir si les expatriés ont leur carte de travail pour étrangers en cours de validité, vérifier les conditions de sécurité de travail, les horaires de travail, et également vérifier les états de paie pour ne pas payer les gens à monnaie de singe, profitant justement du fait qu'il y a un amenuisement de l'offre. Eh bien, toutes ces conditions-là, nous entendons y travailler grâce au nouveau corps rénové des inspecteurs du travail.
Voilà, monsieur le ministre, nous avons Marcel qui est à Kisangani, qui nous a rejoint, et Faol qui est à Kinshasa. Marcel, vous êtes avec nous. Bonjour, Marcel.
Bonjour, monsieur Gier. Bonjour, monsieur de la radio Capi.
Oui, Marcel, quelle est votre opinion par rapport au débat du jour?
Ok, merci beaucoup. Vous savez, la question liée au travail touche essentiellement au social du peuple congolais. Et à l'heure actuelle, il est difficile de dresser les statistiques réelles concernant la situation du travail.
Voilà, Marcel, si vous pouvez peut-être changer votre position. Là, vous sortez vraiment très coupé. Et on ne comprend pas parce qu'il pleut sur Kinshasa. Hein. On ne sait pas s'il y a des problèmes de réseau. Voilà, donc, Marcel, dites-nous un peu. Est-ce que vous pouvez changer votre position et puis rappeler un peu votre contribution?
Ok, merci beaucoup, je me suis déplacé. Maintenant, vous me captez correctement?
Oui, vous êtes, oui, voilà, maintenant ça va, c'est plus ou moins. Allez-y.
Ok, je disais ceci, la question liée au travail est une question très essentielle parce qu'elle touche directement au social du peuple congolais. Mais au cas d'affaires, il est difficile de dresser les statistiques réelles à ce qui concerne le travail. En fait, compte tenu de ce qu'on a constaté par le passé à ce qui concernait le déficit, on ne savait pas, et dans les entreprises publiques qui étaient travaillées, qui ne savaient pas, et avec la bancarisation, nous espérons que maintenant nous saurons combien de Congolais sont-ils employés. Dans le même ordre d'idée, il faut aussi noter qu'il y a des employés, mais il y a aussi des sous-employés, puisque le SNIN en République démocratique du Congo pose problème. Mais nous espérons, avec la volonté de son excellence, et à créant ou à voulant engager des inspecteurs du travail pour améliorer ce secteur, les choses pourront aller de l'avant. Mais nous avons aussi en République démocratique du Congo le libéralisme syndical qui, malheureusement, ne profite pas aux travailleurs. Puisque comment vous pouvez vous imaginer, M. Gier, quand on est dans une entreprise publique et que le syndicat veut faire un soulèvement ou veut organiser une grève et l'État profite à l'occasion pour inciter les autres travailleurs à créer un syndicat parallèle, tout simplement pour paralyser les désirs des syndicats qui a postulé pour...
Ou qui ne partage pas le point de vue de l'autorité. Paralyse. Merci beaucoup, Marcel.
Oui,
merci, Marcel. Allô, Marcel? Ben voilà, merci d'avoir participé à cette émission. Faol, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Faol.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Faol, comment vous réagissez par rapport à cette question du secteur du travail?
Ok,
Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais remercier son excellence le ministre. Moi, je voudrais plutôt poser mon problème, monsieur le journaliste, sur les offres que le gouvernement est en train donc de publier. Nous, par exemple, nous qui avons plus de 30 ans, puisque le ministre, nous sommes aujourd'hui abandonnés entre les mains des expatriés.
Oui, s'il vous plaît,
puisque le gouvernement...
Oui, s'il vous plaît, papa, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ces offres que publie le gouvernement, c'est à quel niveau?
Par exemple, lors du recrutement des inspecteurs, là.
OK.
On a, le gouvernement a limité le nombre d'âges, monsieur le journaliste. Donc, nous qui avons terminé, qui ont des diplômes, qui ont plus de 40 ans, donc nous n'avons pas droit au travail, par exemple. Et si nous sommes abandonnés aujourd'hui entre les mains des expatriés, c'est puisque le gouvernement ne nous prend pas en charge. Et nous sommes soumis à des conditions même inhumaines, puisque le gouvernement nous a abandonnés.
Voilà.
On va imaginer que dans un pays où le taux de chômage est élevé, au niveau, par exemple, parfois de 95%, et que le gouvernement, lors des recrutements, limite l'âge de recrutement à 30 ans. C'est ce qui est grave, M. le journaliste.
Voilà, mais je crois que, Farol, je n'entre pas dans les secrets du ministre, mais dans la logique, au niveau du travail, il y a quand même un âge requis pour un travail donné. Hein. Je crois que quand on est déjà au-delà, peut-être au niveau de troisième âge, il y a certains métiers ou certains travails qu'on ne peut pas faire. Mais c'est comme c'est une question qui concerne notre invité, je crois qu'on va le transmettre. Donc vous parlez là, le problème, la question sur le chômage, le taux de chômage, comment réduire ces taux de chômage si il y a encore des conditions qu'on donne à ceux qui, aux demandeurs d'emploi. Merci Fayol. David, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour David.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Oui,
je voulais vous dire que donc, ici, surtout à Lubumbashi, les expatriés qui exploitent notre sol ici sont en train de violer la législation congolaise. C'est là au vu et aussi de toutes les autorités qui sont ici sur place. Moi qui vous parle, j'ai été donc licencié abusivement dans une entreprise ici sur place. Bon, je peux citer le nom, c'est la Washi Mining. J'ai fait là-bas 7 mois. J'ai 7 bulletins de paye. J'ai signé le premier contrat qui était un contrat direct déterminé de 3 mois. Arrivé au terme de ce contrat-là, l'entreprise nous a laissé travailler pendant 4 mois. Et arrivé au terme de ces 4 mois, sans toutefois signer un document quelconque pendant ces 4 mois-là. Nous avons travaillé comme cela. Pour nous, nous avons trouvé que c'était à notre avantage. Et à la fin de ces 4 mois-là, les blancs qui étaient là, notre chef de département, nous demandera calmement de rentrer à la maison. Si on a besoin de vous, on vous appellera. Alors, ils ont violé la législation et nous sommes allés saisir l'inspection. L'inspection nous a donné raison, mais subitement, on a vu que l'entreprise résistait toujours jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. L'entreprise n'a pas exécuté la décision de l'inspection.
Merci beaucoup, David. David, oui, donc, on comprend bien que vous dénoncez un peu le manque dans le non-respect du code du travail par certains expatriés évoluant à Lubumbashi. Vous avez cité un deux cas, une entreprise qui vous a licencié abusivement et jusqu'à aujourd'hui, donc, vous n'êtes pas rentré dans vos droits malgré la décision de l'inspection du travail. Voilà. Dadi, on va terminer par cette première série d'auditeurs avant d'avoir accordé la parole à notre invité. Dadi, vous êtes également à Kinshasa comme votre prédécesseur Parole. Comment réagissez-vous, Dadi?
Oui, moi, j'ai une petite question à poser à son excellence. Récemment, le ministère a donné la prévision des travaux avec prévu le recrutement des inspecteurs de travail. Et les PCCO avaient aussi recruté 5 sujets. Alors, je ne sais pas si le ministre est au courant de ces dossiers et si ces dossiers se trouvent à quel niveau. Parce que jusque-là, il n'y a aucun signe.
Voilà, donc Dadi, vous voulez avoir un cœur net hein, sur le recrutement des jeunes et aussi par rapport à ça, vous évoquez le recrutement qui a été organisé au même moment au niveau de l'ESECO. Est-ce que ça a un rapport avec le recrutement des inspecteurs jeunes auprès du ministère de l'Emploi? Merci Dadi, et si vous nous rejoignez, en tout cas, bienvenue à Parole aux auditeurs, composez les 081 890 6315 pour débattre avec nous.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Monsieur le ministre, vous avez suivi tour à tour Marcel de Kisangani, Fayol de Kinshasa, David de Lubumbashi ainsi que Dadi qui est dans la ville province de Kinshasa. Marcel a évoqué la question sur le libéralisme syndical qui ne profite pas aux travailleurs. Fayol a ajouté l'aspect sur les offres que le gouvernement publie, donc dans le cadre de la lutte contre le taux élevé de chômage. Voilà, et que ces offres, en tout cas, il y a des conditions qui sont insérées et sont vraiment très drastiques pour les demandeurs d'emploi. David à Lubumbashi parle des expatriés qui licencient abusivement et malgré les décisions de l'inspection du travail, des décisions ne sont pas exécutées. Et Dadi est revenu encore sur cette question des recrutements des jeunes en évoquant également le recrutement au niveau des BCECO. Que dites-vous, monsieur le ministre?
Merci beaucoup. Je remercie tous mes compatriotes pour l'intérêt qu'ils attachent à cette question de l'emploi, parce qu'effectivement, on ne peut sortir de la pauvreté que quand on travaille, parce que c'est le travail qui procure les revenus et donc qui contribue à la lutte contre la pauvreté. Pour ce qui est du multilatéralisme ou tout simplement libertinage syndical, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, le fait qu'on crée des syndicats bidons pour bloquer l'action réelle des syndicats instaurés par les travailleurs. Nous sommes en train de travailler pour dénoncer et voir comment sanctionner ce genre de pratiques. Nous en sommes déjà informés. Dans certaines entreprises, effectivement, les dirigeants préfèrent des syndicats qui sont à leur solde au lieu que les syndicats soient à l'écoute des travailleurs. Et ça viole les principes de séparation des droits et des pouvoirs. Et donc, nous ne pourrions jamais tolérer pareille situation. Voilà pourquoi, chaque fois que de pareilles situations se présentent, nous demandons à ceux de nos compatriotes qui le peuvent de dénoncer, de nous écrire. Et nous allons mener des enquêtes. Nous sommes déjà sur deux ou trois dossiers dans quelques entreprises. Il y a des entreprises privées, il y a des entreprises d'économie mixte, mais également des entreprises publiques. Et nous allons sévir pour que ce genre de syndicats, on puisse les dissoudre, parce qu'ils ne nous facilitent pas la tâche, parce qu'eux, ils devraient nous aider à assainir le milieu de l'emploi. Or, à partir du moment où ils se font corrompre, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler les chats par son nom, nous estimons que nous ne pouvons pas encourager cette pratique-là. Nous voulons que ceux qui défendent les travailleurs soient effectivement ceux-là qui portent les revendications des travailleurs et en qui les travailleurs ont confiance. Il ne faut pas que les employeurs, de par leur position du fait qu'ils ont le pouvoir d'engager des licenciés et ils ont de l'argent, qu'ils puissent imposer leur vue. Donc, c'est un dossier connu et nous demandons à ceux qui ont d'autres informations de nous les faire parvenir. Deuxièmement, pour ce qui est du frère Fayol, concernant l'âge limite pour le recrutement, je crois que c'est une pratique universelle. Et vous verrez que partout au monde, lorsqu'on veut recruter, il y a toujours un âge limite. Pourquoi? Parce que ça compte d'abord de l'énergie que le travailleur apporte. N'oubliez pas que le travail, c'est un facteur de production. Or, si vous amenez une machine, par exemple, qui est déjà amortie, vous l'affectez à la production, elle ne pourra pas répondre aux besoins de l'entreprise. La même chose pour ceux qui sont des hommes. On considère que quand on est encore fort, on est encore jeune, on peut apporter plus d'énergie pour produire et ainsi participer à la création des richesses dans l'entreprise. Sans oublier que nous avons la question de la sécurité sociale et nous avons l'espérance de vie dans notre pays, qui se situe aux alentours de 47, maximum 50 ans. Alors, si on va engager quelqu'un à 40, 45 ans, il va travailler combien d'années pour qu'il puisse participer à la caisse commune de sécurité sociale? Parce que la sécurité ne peut fonctionner que si on a presté et on a cotisé pendant un certain nombre d'années, pas moins de 15 ans. Ainsi, ça peut fonctionner pour prendre en charge les gens qui partent à la retraite. Mais si quelqu'un arrive et 5 ans après il est retraité, vous comprenez que ça brise le cercle.
Oui, mais monsieur le ministre, là peut-être ça nous pousse à vous poser rapidement la question sur l'affiliation obligatoire des employés à l'INSS. Il y a eu un communiqué que vous avez lancé à l'époque dès que vous avez pris le ministère, qu'il fallait vraiment s'affilier à l'INSS. Donc vous appelez les employeurs à affilier obligatoirement leurs employés à l'INSS. Et cette question aussi fait couler beaucoup d'encre et de salive, de temps plus que les gens cotisent, mais en fin de compte, ils ne se retrouvent pas.
Non, je crois que cela appartient au passé. Vous avez suivi qu'on a amélioré sensiblement la pension de retraite. Et donc, on va, de manière croissante, améliorer les conditions, mais en même temps, il faut que le régime soit financé. Pour qu'il soit financé, il faut qu'il y ait beaucoup d'affiliés, qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui fassent affilier leurs travailleurs et qu'ils les payent et qu'ils versent régulièrement dans les limites des dates prévues. Et donc, nous avons fait, on est l'INSS, ça fait le premier pas, en augmentant déjà la paye. Le minimum, c'est 100 000 francs congolais. Avant, c'était 30 000, puis 45 000, et puis 65 000. Au jour d'aujourd'hui, depuis que nous sommes là, ça fait quelques mois, eh bien, 100 000 francs congolais pour le moins payé. Et quand nous le disons, les gens croient que c'est 100 000 francs qu'on paye indistinctement à tous les travailleurs. Non, je peux vous dire qu'il y en a qui touchent 2 millions de francs, 1 million de francs. Tout dépend de ce que chacun a cotisé. Parce que ici, la caisse de sécurité, c'est en fait une épargne. Si vous avez cotisé plus, on vous paiera plus lors de la retraite. Voilà pourquoi nous sommes en train de lutter pour que, non seulement on améliore les conditions salariales pour permettre aux agents de cotiser plus, mais aussi de revoir le taux qui est très bas. Si vous regardez les taux qui sont appliqués dans tous les autres pays d'Afrique, nous sommes les plus bas. Même ici, à côté, au Congo-Brazzaville, mais le taux dépasse les 22%. Nous sommes encore à 8,5%. Voilà pourquoi, au cours de cette session-ci, il a été demandé aux employeurs de faire encore un effort pour qu'on puisse passer de 8,5% à 12,5% pour le global, donc y compris employeurs et travailleurs, mais le supplément de 4%, à charge des employeurs pour arriver à 12,5%.
Voilà, monsieur le ministre, le temps pour nous de prendre également deux autres auditeurs qui sont déjà en ligne, et en rappelant notre numéro d'appel, c'est le 081-890-43-39 pour participer à ces débats, où vous pouvez également déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Ben, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Ben.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Ben, vous suivez, vous êtes là depuis le début de ce débat. Vous avez souhaité participer à cet échange et partage sur les conditions de travail, le respect du code du travail, ainsi que le renforcement des capacités des inspecteurs du travail, qui préoccupent d'ailleurs au plus haut point les autorités. Quel est votre commentaire?
Oui, mon commentaire, c'est que, évidemment, je vous ai suivi jusqu'au début, mais j'ai un cas de témoignage qui serait interpellant pour monsieur le ministre qui est avec vous.
Oui,
je venais de claquer la porte il y a deux semaines dans une entreprise d'expatriés, l'entreprise chinoise appelée Techno Telecom. Ils fabriquent les téléphones mobiles Techno et Itel. Ils sont non loin du boulevard, là, juste en face de l'ex-ambassade de France, où j'ai été le directeur de marketing, en même temps ici chez nous et de l'autre côté à Brazzaville. Nous avions un contrat déjà signé où le salaire de base à l'époque était de $150. Et dans ces contrats, il y a eu les assurances santé, les vacances, comme j'ai entendu un auditeur donner les articles qui justifient ces congés.
Oui, alors, l'article 40.
D'abord, quand vous arrivez en retard, même 10 minutes, il vous soustrait $5 de votre salaire de base. Donc, l'entreprise n'a pas de transport en commun. Donc, nous débrouillons même pour aller au lieu de travail. Et un retard, même 10 minutes, on vous soustrait $5. Ce qui fait que un travailleur qui serait peut-être à Mongafula et qui va jusqu'au niveau des centres-villes, qui les embouteillages et consorts, s'il fait 5 retards ou 10 retards le mois, vous faites le calcul avec moi, il a un $50 déjà soutiré. En même temps, si vous êtes malade, ils ne vous prennent pas en charge, mais vous devez faire le système que nous appelons avec en anglais le borrow. Donc, vous prêtez quelque chose, vous empruntez votre salaire, quelque chose là pour vous soigner. Et pendant les temps que vous vous soignez là, si vous faites 15 jours, ils comptent ces jours-là et soustraient aussi $5. Donc, avec toutes ces conditions-là, ils ne sont même pas répertoriés parmi les compagnies étrangères qui sont ici. Parce que nos amis de l'hôtel de ville passent et passent, ils disent, ils ne parlent pas anglais, ils parlent chinois et anglais. Ah, ils ne parlent pas français plutôt. Alors, lorsque nos amis, le contrôle national vient, il y a l'INSS, il y a l'inspection du travail, il y a l'hôtel de ville qui viennent, nous sommes obligés de jouer l'interprète pour leur faire comprendre que voilà les lois de notre pays, ils veulent d'abord vous enregistrer afin de faire suivre d'autres contrôles après. Ils ne veulent pas, ils disent qu'il faut attendre notre avocat. Leur avocat, c'est un sujet congolais, M. Bavon, et lorsqu'il voyage, on cautionne tout le contrôle de notre pays, on dit non, on attend l'avocat. Et quand l'avocat vient, parce que l'avocat, lui, voyage partout. Donc, je ne saurais pas vous prendre assez de temps.
Oui, allez, on a compris.
Qui interpellerait le ministre.
Donc, c'est un arbre qui cache la forêt.
À la base, là où il ne peut pas arriver, il y a des choses qui se passent et qui doivent initier des contrôles réels d'abord ici à Kinshasa pour répertorier toutes les compagnies étrangères et ensuite ils sauront comment faire appliquer ce loi. Parce que jusque-là, ils sont ici depuis 2009, mais ils ne se trouvent répertoriés dans aucun registre
voilà,
de contrôle
merci.
De n'importe quel service en la matière.
Merci Ben d'avoir appelé. Hein. Nous notons que vous ne faites plus partie donc de groupe Techno Télécom par rapport aux raisons que vous venez d'évoquer là. Et vous demandez que le ministère de l'Emploi puisse répertorier toutes les compagnies étrangères afin d'assainir un peu le milieu de l'emploi. Merci Ben. Salomon, vous êtes à Likasi. Bonjour Salomon.
Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs et bonjour à son excellence, monsieur le ministre.
Voilà, Salomon, comment vous réagissez?
Voilà, moi je voudrais répondre sur ce qu'a dit le ministre. D'abord, je félicite son apport parce qu'il a dit qu'il est en train de préparer pour améliorer les conditions. N'est pas votre question améliorer les conditions de travail?
Oui, donc si on doit assainir le secteur de l'emploi en RDC par rapport à toutes les décisions prises, l'adoption de la loi pourtant le code du travail, donc réagissant le travail, le secteur du travail en RDC, et aussi l'amélioration des conditions par rapport à la sécurité sociale qui doit être aussi la question des réflexions hein, pour amener à assainir et évaluer également le secteur de l'emploi.
Voilà, dans tout ça, moi je dirais peut-être il faut seulement le suivi et la rigueur dans tous les domaines. Vous savez, par exemple, si quelqu'un travaille, quelqu'un disait le travail assure l'indépendance, et quand on travaille, on devient indépendant. J'ai l'impression comme dans notre pays, nous dépendons toujours des autres. Donc le ministre ne doit pas rester dans son bureau, il doit s'inciter dans tous les domaines, dans toutes les entreprises. Par exemple, ici à l'ICATU, vous allez trouver des entreprises chinoises qui prennent les gens comme des journaliers. À la fin de la journée, on lui donne, par exemple, 1 800 et 2 100. Moi, j'ai assisté à ce genre de choses. Et c'est très difficile. Vous allez trouver les gens dans des entreprises pareilles. Et même ceux qui sont engagés, on leur donne moins de $100 et ils ne vivent que du vol. On a la mine, ils s'organisent pour voler le soir. Et c'est ça la vie. Donc, par exemple, aussi à Fongoumé. J'ai appris, on est en train de prendre les gens pour les engager. Avant d'entrer dans l'entreprise de Pink Fongroumé, on vous demande $200 ou $300, des choses comme ça, ou $100 pour travailler. Donc le ministre ne doit pas rester dans son bureau, il doit se mettre, il doit travailler, appliquer le suivi et la rigueur dans tous les domaines pour améliorer d'abord ceux qui sont engagés et chercher encore aussi à offrir de l'emploi aux autres.
Voilà, merci Salomon. Freddy, on va terminer cette série avec vous. Freddy, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga, comme Salomon qui est à Likasi. Bonjour Freddy.
Oui, bonjour.
Vous avez la parole, Freddy, rapidement.
Ça va, merci beaucoup d'avoir m'accordé la parole. Ma question j'adresse à notre invité. Quel est le mécanisme qu'on est en train d'utiliser pour lutter contre le chômage? Vous voyez ici chez nous au Congo, le chômage a perturbé. Il y en a à peu près 100%. Je pense que c'est 5% qui travaillent. 95% ne travaillent pas. Et je suis en train d'interroger à notre invité. Quel est le mécanisme qu'on est en train d'utiliser pour que qu'on lutte contre le chômage? Après, on est en train de comprendre ce qui se passe en France. En France, il y a le chômage. Mais vous voyez, les autorités françaises, ils sont en train de se tracasser pour que le chômage qu'ils terminent. Je voulais terminer. On avait compris qu'on avait suspendu les autorités comme les chefs d'établissement. On a suspendu, bien sûr. Moi, je parle ici, je suis un enfant de chef d'établissement. On est en train d'endopter les chefs d'établissement.
Oui, allez-y rapidement.
Maintenant, nous sommes à l'université. J'ai mes petits frères et mes petites sœurs. Mais c'est $1, est-ce que ça va
voilà,
nous,
Freddy,
nous aider à notre maison?
Merci Freddy.
Mon père, on est en train de louer la maison.
Oui, Freddy, merci Freddy. Là, on est en train de se garer. Hein. On ne parle pas du salaire qu'on paye les enseignants. Nous parlons des conditions de travail qui doivent être améliorées au niveau du secteur de l'emploi. C'est vrai, tout ça, ça entre en ligne des comptes. Nous prenons Ernest qui va clôturer donc pratiquement. Ernest, bonjour.
Bonjour.
Ernest, vous êtes à Bukavu, vous avez la parole.
Non, c'est Matadi.
Matadi. Oui, allez-y, Ernest. Oui.
Merci bien. Nous pensons que le monde du travail est en difficulté dans notre pays. Presque partout, les échos, vous les entendez avec les expatriés. Mais il ne serait pas intéressant pour moi de condamner les expatriés. Si le gouvernement congolais veut avoir de l'argent en termes de taxes, de contributions des travailleurs, il faut que le gouvernement organise ce monde du travail. C'est au gouvernement d'organiser le travail. C'est au gouvernement de donner du travail aux Congolais et un salaire conséquent, de manière que lorsque les expatriés arrivent, se conformeront à la loi qu'ils rencontrent sur le terrain. Mais lorsque ces expatriés trouvent que la situation n'est pas normale, n'est pas harmonisée, ils entrent dans les magouilles parce que même leurs avocats, nous avons, c'est pas besoin pour moi de citer les expatriés qui sont ici à Matadi, mais nous avons suivi des déclarations avec la force policière causée mort d'homme ici. La déclaration des autorités pour qu'ils ne sécurisent pas les travailleurs qui sont dans ces entreprises-là. Ils sont payés journalièrement 500 000 francs, 2 500 francs. Comment ces gens peuvent se soutenir et qu'est-ce que l'État peut récupérer à travers ces gens? Donc, c'est l'État qui va organiser son secteur pour que les expatriés se conforment à cela. Sans cela, il y aura un désordre total organisé parce que même les avocats qui sont congolais ne vont pas marcher selon la logique de la République parce que nous sommes tous des traîtres. Ils seront en faveur de leur monsieur qui leur donne quelque chose. Donc, moi j'insiste que le gouvernement réorganise le monde du travail et le reste viendra après parce que les expatriés vont suivre la loi congolaise conformément comme exécutée partout ailleurs. Vous pouvez pas investir en France et imposer votre loi au-delà des législations du travail de la République française.
Merci beaucoup, Ernest.
En bref,
Merci beaucoup Ernest. Nous nous tournons du côté de notre invité, Modeste Bahati Lukwebo, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention Sociale. Monsieur le ministre, vous avez suivi les uns et les autres. Hein, en gros, le monde du travail en RDC est vraiment en difficulté au regard du tableau qui nous est présenté par les uns et les autres. Hein, à Lubumbashi, à Likasi, à Kinshasa, à Matadi. Aujourd'hui, c'est vrai, ça nous pousse à vous poser la question de savoir est-ce que c'est à tort ou à raison que d'aucuns pensent que l'amélioration de la sécurité sociale dans le pays, donc en RDC, n'est qu'un rêve.
Merci beaucoup. Je suis conscient qu'effectivement, il y a des sérieux problèmes dans le monde du travail. Et c'est ce travail-là auquel nous nous appelons pour améliorer. L'amélioration doit se faire progressivement. Et les mesures que nous sommes en train de prendre, justement, nous permettront de rencontrer un tant soit peu les préoccupations de nos compatriotes. Je commencerai par où on a terminé avec l'intervention
Ernest Matadi.
D'Ernest de Matadi. Sa recommandation, elle est plus que pertinente, qu'effectivement, il ne faut pas s'en prendre aux étrangers, parce que la faute incombe en premier chef au gouvernement. Et c'est pour cette raison que moi, en tant que ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, prenant mes responsabilités, je suis en train de mettre de l'ordre là-dedans. Vous savez que partout où j'ai travaillé, moi j'ai toujours essayé de mettre de l'ordre dans ma façon de travailler, pourvu que ça se fasse conformément à la loi. Rappelez-vous de l'affaire de la Monique à l'époque, qui ne voulait pas payer les assurances à la SONAS, et tant d'autres cas que je peux évoquer. Mais pour que nous puissions y parvenir, j'ai décidé que nous puissions, disons, créer un site web du ministère de l'Emploi et du Travail et de la Prévoyance sociale. Et dès la semaine prochaine, ce sera chose faite, nous allons communiquer cela au public, de manière à ce que tous ces cas-là, que ce soit des cas comme ceux qui ont été dénoncés par le frère de l'ICASI, qui dit que on paye mal les gens, et que pour engager des gens chez Tank Fungurume Mining,
faut payer $200.
Ce qu'ils le font, ils exigent $200 ou $300. Je crois que ça doit être les sociétés qui se chargent justement du recrutement avec le système de placement que nous sommes en train d'ailleurs de vouloir réorganiser, parce que dans ces maisons de placement, il se passe beaucoup de choses et ils font tout pour protéger les entreprises, mais en même temps, ils ne déclarent rien au fisc, ni à l'INSS, ni à l'INPP. Et donc, toutes ces questions-là, y compris la question qui a été soulevée par David de Lubumbashi concernant le comportement des dirigeants de Roachi Mining qui violent délibérément la législation, je crois qu'à partir du site web, nous serons informés et nous prendrons toutes les mesures qui s'imposent. Dadi avait demandé quelle est la suite
de recrutement
du dossier de BCECO et tout ça. Bon, je dois lui dire que le BCECO avait reçu mission de recruter 500 jeunes. Bon, et je crois que ce dossier est en cours. Il était aussi initialement prévu qu'il s'occupe du recrutement de 1000 inspecteurs du travail. Mais à la suite de la protestation des syndicats de l'administration publique, qui ont estimé que le BCECO ne doit pas s'accaparer des tâches classiques des ministères et des institutions, le Premier ministre a décidé que mon ministère, avec les structures qui y sont, notamment l'ONEM et autres, nous puissions organiser ce concours-là et qui doit tenir compte, bien sûr, de toutes les provinces. Donc, quand on recrute, on ne doit pas seulement recruter à Kinshasa, on doit recruter dans les provinces.
Et ça interviendra quand? Ça interviendra quand, monsieur le ministre, si ce n'est pas un secret?
Pardon?
Le concours en question interviendra quand?
Non, je n'attends que le paiement des frais relatifs aux équipes qui doivent aller à l'intérieur. J'ai engagé la dépense à cet effet. C'est quelque chose comme $22,000 pour l'ensemble du pays. Et dès que les fonds sont débloqués, immédiatement on se met au travail.
Donc, voilà.
De mon côté, les termes de référence ont déjà été élaborés.
Voilà, on n'a plus assez de temps. Il nous reste quelques 8 minutes avant les journaux. Nous allons prendre juste les deux derniers auditeurs, Amiral qui est à Mwanda et Apollinaire qui est à Bukavu. Amiral, vous êtes à Mwanda, bonjour.
Bonjour.
Vous n'avez que 30 secondes, Amiral, pour votre intervention.
Oui, d'abord, j'apprécie les efforts de notre gouvernement parce que on a fait quand même des efforts concernant l'autre. Avant, on travaillait, on n'avait même pas les repos. Mais aujourd'hui, si on travaille à 12 heures, on a quand même des repos. Mais ce qui m'étonne, d'abord, c'est quoi? Puisque il y a les mêmes travail, les mêmes expatriés. Vous travaillez le même travail, mais on vous paye des salaires différents. Les salaires ne sont pas uniformes. Donc, je ne sais pas quelle procédure qu'on pourra faire pour uniformiser.
Pour uniformiser les salaires. Merci, Amiral. Apollinaire. Apollinaire, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Oui, merci, monsieur le journaliste.
Je voudrais poser principalement ma question à monsieur le ministre du Travail et Prévoyance Sociale. D'ailleurs, j'ai l'impression, en première part, je trouve que c'est un papa qui est responsable et posé et ses actions sont concrètes sur le terrain. Mais je voudrais savoir, est-ce que la loi portant code du travail concerne seulement les civils ou bien ça concerne aussi les militaires? Si ça concerne pas les militaires, il peut nous dire pourquoi. Et si ça concerne les militaires, il peut nous expliquer pourquoi nos militaires sont les moins payés de la République et pourtant ils rendent des services éminents à la nation. Pour exemple, vous allez voir un petit gradé de l'armée tel qu'un colonel ne touche que 80 000 francs congolais, c'est-à-dire inférieur à 100 dollars. Allez-y pour comprendre avec les situations que nous avons aujourd'hui où l'intégrité territoriale de notre pays est menacée. Quelqu'un qui touche un salaire si modique comme ça, pensez-vous vraiment qu'il est motivé? Prenons encore un autre exemple, il y a la suspension du chef d'état-major de
Force terrestre
qui est suspendue. Bon, s'il vous plaît, je vais terminer. Il est suspendu.
Oui, allez-y rapidement parce que vous avez déjà épuisé votre temps.
Tout l'état est passé, que tout congolais est resté. S'il vous plaît.
Bon, voilà. Apollinaire.
Vous voulez ériger par le principe de la présomption d'innocence.
Voilà. Apollinaire, nous n'allons pas verser dans ce genre de débat. Donc, je crois que sur la question politique, nous reviendrons sur cette question demain, d'ailleurs, sur les différentes marches et des protestations qui ont été organisées, c'est là, par rapport à la question de l'heure. Ben voilà. Pour l'heure, nous parlons du secteur de l'emploi. Nous revenons à vous, notre invité, parce qu'il ne reste que 5 minutes, pour revenir à la dernière question. Le secteur informel, monsieur le ministre, occupe une bonne partie de l'économie nationale. Quels sont les mécanismes mis en place par le ministère de l'Emploi pour encadrer la main-d'œuvre de ce secteur qui échappe souvent au contrôle de l'État? Et bien entendu, à mettre un accent sur les interventions de tout à l'heure d'Amiral qui parle des salaires qui sont différents pour un même travail, et puis Apollinaire qui revient sur les codes du travail civil ou militaire.
Eh bien, tout se résume dans le contrôle. Comme je l'ai dit, il faut que l'État, donc le gouvernement, se déploie partout, dans tous les coins et recoins de la République. Et c'est pour cette raison que j'insiste sur le travail que doivent accomplir les inspecteurs du travail. Évidemment, on a dit, bon, on connaît, les gens sont corrompus, et ainsi de suite. Mais moi, je vais vous dire que la corruption, c'est un problème de comportement. Et tout dépend aussi des dirigeants. Si les dirigeants sont fermes, soyez rassurés qu'on peut élaguer cette question-là de corruption. Tout ce que je demande, c'est que dès qu'ils seront en fonction, il faut qu'ils soient bien payés pour les mettre à l'abri des besoins minimums, de manière à ce que nous soyons en mesure maintenant de bien les contrôler et les sanctionner positivement ou négativement les cas échéants. Et nous disons également que parce que Freddy avait posé la question de savoir quel est le mécanisme pour lutter contre le chômage, mais il faut créer des emplois, il faut créer les bonnes conditions pour attirer les investissements. Troisièmement, il faut que des grandes décisions soient prises pour que les grands dossiers, notamment les dossiers d'exploitation du pétrole, du bois, de minerais, pas comme ça se fait aujourd'hui, et tant d'autres dossiers, les gaz méthane dans le lac, Kivu et consorts, ce sont là des grands dossiers qui peuvent créer beaucoup d'emplois, mais aussi générer des ressources de manière à ce qu'on puisse en créer dans d'autres secteurs de la vie nationale, notamment la relance de toutes les plantations qui avaient été abandonnées, faire les grands travaux de route qui emploient beaucoup de monde, se lancer dans les chemins de fer qui pourraient employer un grand nombre de travailleurs. Donc, c'est toutes ces questions-là qui font partie donc du bloc du programme du gouvernement. Et donc, nous disons, quand le frère qui est à Bukavu demande pourquoi nos militaires sont les mal payés, les militaires sont payés de la même manière que tous les autres fonctionnaires de l'État. Donc, il y a des équivalences. Sûrement que si on améliore chez les civils, on améliorera aussi chez les militaires. Mais il se pose toujours ce problème de politique salariale. Dès lors qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas de croissance économique, sur quelle base les salaires vont être relevés? Voilà pourquoi j'insiste sur les grands dossiers. Il n'est pas normal que nous qui avons des réserves énormes de pétrole, on puisse avoir un budget misérable de 4, 5, 6 milliards de dollars. Les autres, comme les pays voisins, ils ont des budgets de 45 milliards, de 50 milliards. Or, nous, on a plus de réserves que eux. C'est seulement à cette condition-là qu'on peut imaginer une augmentation significative des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Donc, nous travaillons sur tous ces dossiers, nous exerçons la pression pour que les bonnes décisions soient prises de manière à créer plus d'emplois et plus de richesses qui vont profiter à un plus grand nombre de compatriotes.
Voilà, autant de questionnements. Nous allons y venir prochainement quand les jeunes, les recrues, donc au niveau de l'inspection du travail, seront à l'œuvre pour voir qu'est-ce que cela donnera comme résultat. Et une fois encore, merci à notre invité, Modeste Bahati Lukwebo, d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir disponibilisé de votre temps pour participer à ce débat et répondre, disons, substantiellement à toutes les questions et à toutes les préoccupations des auditeurs. Merci et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Héritier Sidi Akala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou, Pierrot et la Mégie l'ont réalisé. Et Gilles Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. L'occupation de Goma par le M23 a occasionné des marches de protestation à travers le pays. La population met en cause les gouvernements congolais et ses partenaires engagés dans le processus de pacification dans l'Est. La crise donc dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon vous, quels sont les enjeux de cette guerre? C'est la question du débat de Parole aux auditeurs de demain. Vous pouvez déjà vous inscrire pour participer à cet échange au 081-890-6315 ou bien à notre courriel pa@radiocapi.net. Excellent début de semaine à tous et bonne suite des programmes sur Okapi.